Voilà, je crois que le cadre Copenhague, par les trois exposés et le décor est planté. Nous avons autour de la table, donc on va passer plus à notre phase de débat autour de la table. Nous avons autour de la table trois acteurs économiques. Donc je vous propose qu'on les entende maintenant. D'abord qu'ils nous rappellent comment ils se trouvent directement impliqués, c'est-à-dire comment ça les concerne dans leur activité quotidienne, leur business, notamment pour le secteur entreprise. Et puis aussi, éventuellement, qui nous donnent la réaction par rapport à ce qui a été présenté jusqu'à présent, et notamment la présentation de Jean Tirole. Donc je passe tout de suite la parole à Jean-Paul Bout, donc EDF, puisque voilà, on est dans un cas simple d'un électricien qui est premier électricien au niveau national, mais qui a aussi une dimension internationale, et donc qui se trouve déjà directement impliqué dans un certain nombre de mécanismes, et notamment dans les mécanismes de quotas au niveau européen. Donc je lui passe la parole tout de suite. Merci.
Merci beaucoup Dominique. Bonjour à tous. Donc je vais essayer de vous proposer trois ou quatre points qui me semblent effectivement utiles et intéressants dans ce débat. Le premier, c'est que, comme tu le disais, l'électricité est effectivement au cœur de ces discussions. Quelques chiffres pour commencer, mais je crois que c'est intéressant. Dans les émissions de gaz à effet de serre, donc tout confondu, CO2, méthane, etc. L'électricité contribue pour 25%, la forêt et l'agriculture chacun pour environ 15%, un petit peu plus, un petit peu moins, et le transport 12% au niveau mondial. Donc, tout gaz à effet de serre confondu, vous voyez que l'électricité est d'une certaine façon le premier poste responsable de ces émissions. Si maintenant on parle en termes d'émissions de CO2 uniquement, en termes d'émissions de CO2 reliées à l'activité de l'homme dans le secteur de l'énergie, l'électricité pèse pour 40% des émissions de CO2 à l'échelle mondiale, le transport pour 20%. Donc vous voyez que l'électricité est effectivement au cœur de ces discussions. Pourquoi? Et là, il faut avoir juste en tête ce qu'on appelle dans notre jargon le mix électrique à l'échelle mondiale. Ce mix électrique, il comprend un tiers de moyens de production qui n'émettent pas de CO2 ou très peu. C'est pour l'essentiel aujourd'hui environ 15% l'hydraulique, 15% le nucléaire. Vous voyez qu'on est à un peu moins d'un tiers de production sans CO2 ou quasiment sans CO2. Par contre, les deux autres tiers émettent du CO2, 40% charbon et le reste environ 25-26% essentiellement du gaz, un petit peu de pétrole, mais surtout du gaz. Et vous savez que le charbon, c'est, et je vais m'arrêter là ensuite pour les chiffres, je vous rassure, mais c'est une tonne de CO2 par mégawattheure. Et quand vous faites de l'électricité à partir de cycles combinés au gaz, c'est à peu près la moitié. Donc voilà ce qui explique que l'électricité est au cœur de ces discussions. Le deuxième message, c'est que, ça c'est légèrement préoccupant, effectivement. Le deuxième message est plutôt plus optimiste. Et donc ma conviction, c'est que, et la conviction de ceux qui travaillent dans le secteur électrique, c'est que pour autant, nous avons des moyens d'action dans les 20, 30, 40 prochaines années. Et je crois que dans le secteur électrique, alors c'est pas simple, mais nous avons et nous pouvons avoir demain les technologies qui pourraient nous permettre progressivement, d'une part, de diminuer l'augmentation de la demande de façon significative, donc de faire des économies d'énergie dans le secteur électrique, et d'autre part, de décarboniser complètement ou quasiment complètement à l'horizon 2050 et déjà de façon significative à l'horizon 2030, de décarboniser, un anglicisme peut-être, ou de décarbonater, je ne sais pas comment il faut dire, la production d'électricité. Juste deux, trois exemples. Et il me semble de ce point de vue-là que c'est utile de distinguer, pour faire simple, entre ce que nous avons déjà pour les 10 ou 20 prochaines années et ce qui est dans le pipeline de la recherche et qui arrivera plutôt aux horizons 2020, 2030, 2040. Dans la première catégorie, je dirais que pour les économies d'énergie, clairement sur l'isolation des logements, nous commençons à avoir vraiment les moyens de construire les bâtiments autrement. Nous avons aussi au niveau par exemple, de l'éclairage, des lampes basse consommation qui maintenant permettent de faire des vraies économies d'énergie. Pour les industriels, la recompression mécanique de la vapeur, l'induction, les pompes à chaleur, ce sont des choses qui nous permettent d'avancer et de diminuer substantiellement la consommation d'électricité. Sur l'offre, C'est tourné essentiellement pour les moyens qui sont aujourd'hui disponibles et quasiment compétitifs ou proches de la compétitivité. Ce sera le grand hydraulique, le nucléaire et les éoliennes. Si je me porte plutôt aux horizons 2020-2030, là, on a de nouveau sur les économies d'énergie ou sur les usages de l'électricité des percées possibles sur des pompes à chaleur haute performance, sur les véhicules hybrides rechargeables ou sur les véhicules électriques, pour ne prendre que ces deux exemples. Et de nouveau sur les technologies, il y a le photovoltaïque, l'éolien offshore, la capture-stockage du CO2 pour essayer d'utiliser le charbon, mais sans émettre du CO2, et puis la génération suivante de nucléaire, ce qu'on appelle génération 4. Donc vous voyez qu'on a les technologies, on peut les avoir. Et donc où sont les problèmes? Et donc c'est mon troisième point. Où sont les problèmes? Les problèmes, me semble-t-il, et là c'est une conviction en tant qu'expert de ces questions, mais évidemment discutable, il me semble que les problèmes ne sont donc pas d'abord au niveau des technologies, au sens où elles vont contribuer à nous aider, hein, mais ne sont pas d'abord au niveau des technologies. Ils ne sont pas d'abord au niveau des ressources. C'est vrai qu'on parle beaucoup du peak oil, du peak gaz, qui est une vraie préoccupation. Et c'est vrai que les ressources ou les réserves d'énergie sont une préoccupation au sens géopolitique ou au sens d'équité. Elles ne sont pas réparties dans les endroits où les populations en ont besoin. Et donc il y a un vrai enjeu à préparer et à pouvoir partager mieux ces ressources énergétiques là où nous en avons besoin. Par contre, si on se projette à long terme, à l'horizon 2050, mais en fait, au-delà même des renouvelables, je crois qu'en termes d'uranium, en termes de charbon, il y a des ressources considérables. Donc les vraies contraintes me semblent vraiment beaucoup plus au niveau de l'environnement. L'environnement, donc justement, l'évolution climatique, oui, c'est une vraie contrainte. L'eau, l'utilisation des sols, ce sont les vraies contraintes. Et derrière, la vraie contrainte, c'est au fond une contrainte plutôt institutionnelle. C'est serons-nous capables et sommes-nous capables de mettre en place les institutions, les règles du jeu qui vont nous permettre de déployer ces technologies en maîtrisant les impacts environnementaux et en faisant en sorte qu'elles bénéficient, y compris à ceux qui sont plus pauvres et qui en ont le plus besoin. Donc ce sont plutôt ces institutions, ces règles du jeu, ces politiques publiques qui doivent justement pour le climat essayer de réconcilier une vraie efficacité environnementale, comment limiter les émissions de CO2 en essayant de déployer les technologies que j'évoquais tout à l'heure, mais en même temps à un coût qui reste abordable. Et donc c'est mon dernier point, Dominique, si je peux encore deux minutes, sur les politiques publiques. Il me semble là que peut-être j'aurais envie de dire au fond deux choses. La première, c'est de rappeler, pour ceux qui ont fait un peu d'économie dans la salle, hein, les économistes utilisent au fond le jargon « échec de marché », échec de la régulation qui a déjà été utilisé ce matin, hier. Échec du marché, le premier échec du marché, c'est effectivement la pollution, c'est les émissions de CO2, l'impact sur l'environnement. Et donc c'est pour ça, Jean Tirole nous le rappelait tout à l'heure, les économistes pensent, entre autres choses, à introduire une valeur liée à la pollution, une pénalité liée à la pollution, c'est la valeur du CO2. Donc ça, c'est le premier point. Donc ce échec du marché, bien public, il faut donner une valeur au CO2. Et donc, comme on le disait, le secteur électrique doit commencer à payer pour les émissions qu'il émet en Europe. Et c'est une bonne chose, c'est le système de permis d'émission. Il paye un peu aujourd'hui. En 2013, il payera pour toutes ses émissions. Il devra acheter tous ses quotas de CO2 liés à ses émissions. Et donc le système de permis d'émission européen aura exactement le même effet utile que la taxe CO2 pour le secteur électrique. Ça ne sera pas encore vrai pour tous les secteurs industriels. Personnellement, je pense que ce serait une bonne chose qu'on se dirige vers une enchère généralisée à titre d'expert sur l'ensemble des secteurs. Mais en tous les cas, le secteur électrique, ce sera le cas. La deuxième chose, c'est simplement de dire que de mon point de vue, il n'y a pas que cela comme échec du marché. Il y en a au moins un ou deux autres. Et juste pour donner ces un ou deux exemples, le deuxième échec du marché, c'est ce qu'on appelle dans le jargon, là encore, les asymétries d'information. Le citoyen, ou les citoyens que nous sommes, ont tout de même une certaine difficulté à maîtriser la consommation des machines à laver, des lave-linges, comment il faut construire les murs. Et donc il est utile, pour mettre en œuvre ces différents moyens, de mettre en place des standards et des normes. Et donc les standards et les normes sur l'isolation des logements, sur la consommation énergétique des machines à laver ou des lave-linges, c'est une façon de surmonter pour la puissance publique ce deuxième échec du marché. Et le troisième, c'est ce qu'il faut faire en termes de recherche-développement. Vous voyez que pour avoir le photovoltaïque de demain ou pour avoir le véhicule électrique ou les batteries de demain, il faut mettre en place des politiques de R&D que le marché ne fera pas tout seul. Alors simplement, et pour conclure, une fois qu'on a dit ça, il y a aussi des échecs de la régulation. Le plus beau, de mon point de vue, le plus pervers, et donc je voudrais dire que dans le secteur de l'énergie, on peut aussi avoir des effets systémiques pervers, comme dans le secteur de la finance. Exemple, il y a quelques années, peu de temps, si vous construisiez une centrale charbon en Europe, vous aviez gratuitement, pour une nouvelle centrale charbon, les permis de CO2 associés. Pour l'économiste que je suis, évidemment, c'est épouvantable. C'est un effet pervers majeur qui est une incitation à construire plein de centrales charbon vraiment pas propres. Donc, et ce sera mon dernier mot, Dominique, mais je crois qu'il est extrêmement important de faire attention. Le diable est dans les détails, on n'échappe pas à la complexité, et donc je crois qu'il faut regarder de très près ces règles du jeu, que ce soit qu'elles concernent ces marchés d'émissions de CO2, qu'elles concernent les standards et les normes, pour faire en sorte qu'on ait de l'énergie propre et si possible pas trop chère.
Merci. Je crois que le... Monsieur le maire, je crois que je vous ai vu tiquer au moment où Jean Tirole a dit « ménage, entreprise, pays ». Mais d'un autre côté, Jean-Paul est un peu dans la même dichotomie. Il y a les règles du jeu, le sujet des pays, donc on met les régulations au niveau international. Puis après, il y a les acteurs les plus décentralisés, les ménages avec la taxe carbone, les entreprises avec les marchés de droits, etc. Est-ce qu'on n'a pas oublié les villes dans cette affaire-là? Donc, pourquoi les villes sont concernées? Pourquoi les partages publics-privés dans l'économie sont aussi affectés par l'action climatique et notamment l'action précoce?
Si vous voulez parler de la taxe carbone, on n'a pas oublié les villes. Hein, donc, elles vont payer effectivement la taxe carbone comme les autres, et même peut-être plus que les autres acteurs de la vie publique. Moi, ce que je voudrais dire, c'est qu'évidemment, les villes, aujourd'hui, sont un des lieux majeurs d'action sur la pollution. Lorsque l'on regarde au niveau international, on s'aperçoit que les émissions de pollution, c'est ce qui se passe du côté de l'agriculture, mais après, tout le reste, que ce soit industrie, électricité, mode de transport, problème de chauffage des bâtiments, tout ceci se passe effectivement dans les grandes agglomérations. Sans parler simplement de l'Europe, on voit bien par exemple que le développement des grandes villes à travers le monde est une source de pollution majeure et que sur le plan du réchauffement climatique, c'est quelque chose d'extraordinaire. Je crois que tout le monde a été frappé par Pékin pour les Jeux Olympiques et les premières vues qu'il y avait d'une pollution absolument extraordinaire, avec des usines qu'on avait pourtant arrêtées quelques mois avant, mais qui émettaient de manière tout à fait considérable. Donc cela veut dire que c'est largement dans les villes que le combat contre le changement climatique va se passer. Avec, à mon avis, quelques problèmes lorsqu'on regarde les grands pays. D'abord parce que ce qu'on a dit tout à l'heure, qu'on a évoqué brièvement, c'est que les ressources, gaz, pétrole, vont connaître des pics et que vers 2020-2030, il va y avoir une stabilisation de la production et donc un surcoût des productions à base de pétrole. Mais que le risque, c'est que par contre, les réserves en charbon sont extrêmement plus importantes. Positionné dans un certain nombre de pays qui se développent de manière économique. Évidemment, les États-Unis ont des réserves extrêmement importantes. D'une autre manière, le Canada également. On voit en Europe les pays de l'Est, commencer par l'Allemagne, si nous n'avons plus de charbon quasiment, de manière anecdotique, de temps en temps on parle de rouvrir une mine, mais enfin ça c'est totalement anecdotique, mais on va dire que du côté européen on a ces réserves, et alors surtout la Chine a une capacité effectivement de production charbon, et a aujourd'hui le pays qui a l'industrie la plus carbonée. Alors voilà, les grands enjeux, je crois, au niveau européen sont là. Comment peut-on progresser? À mon avis, la progression se fait, comme vous le dites, il y a deux réalités, en fait, qui s'opposent. La première réalité, c'est celle de la prise de conscience dans les populations que vous avez évoquées tout à l'heure. Et puis, la deuxième réalité, c'est l'économie telle qu'elle est aujourd'hui, qui est une économie très carbonée. On voit bien, par exemple, qu'en Chine, il y a un modèle économique nouveau qui se cherche. On voit à la fois des secteurs extrêmement pointus de recherche et de développement d'un certain nombre de technologies liées aux problèmes de changement climatique. Et puis, en même temps, le reste, la globalité de l'économie est une économie, évidemment, qui est basée totalement sur le charbon. Alors, comme la Chine n'était pas partie prenante au niveau des efforts à faire dans le protocole au moment de Kyoto, aujourd'hui, la faire rentrer dans la discussion, c'est quelque chose de tout à fait nécessaire, mais évidemment, pour elle, qui nécessite un effort extrêmement important. Et donc, quelque part, elle dit, nous, on veut bien programmer un certain nombre d'efforts et se donner des objectifs, mais aujourd'hui encore, on a besoin d'être considéré comme une puissance intermédiaire et donc pas être mis sur le même pied que l'Europe ou bien que les États-Unis. Du point de vue européen, c'est nous qui portons quand même, et depuis longtemps, on l'a dit tout à l'heure, depuis le début, cette problématique du changement climatique. C'est en Europe qu'on a fait le plus d'efforts, puisque le paquet énergie-climat nous a fait progresser de manière importante. Cela se répercute dans nos pays avec quelquefois des contradictions. C'est vrai que l'Europe de l'Est, par exemple, l'économie de l'Europe de l'Est n'a pas exactement les mêmes intérêts que peut l'avoir la France aujourd'hui. Donc il y a des contradictions à l'intérieur de l'Europe. Mais on va dire que globalement, c'est quand même nous qui sommes le plus avancés. C'est nous qui, par rapport aux objectifs qui avait été donné dans le protocole de Kyoto, sommes le plus avancés. Et donc, pour nous, c'est quelque chose de tout à fait fondamental que de faire avancer les autres en même temps que nous, parce que quelque part, on se retrouvera devant une contradiction si cela ne se passe pas. Pour ce qui concerne la France, moi, j'ai été de ceux qui pensaient que l'installation d'une taxe carbone n'était pas une catastrophe et qu'au contraire, c'était une mesure positive. De toute façon, comme on le disait tout à l'heure, en 2013, pour les industriels, il va y avoir un prix du carbone qui va être le vrai prix et donc un marché du carbone qui va s'installer. Si aujourd'hui, on ne passe pas progressivement de zéro coût pour les particuliers et puis d'un coût qui avait varié en fonction de la crise avant donc la crise économique, il était quand même monté et grosso modo le prix de référence qu'on a pris maintenant pour la taxe carbone, c'était le coût d'après la crise, enfin une période moyenne. Mais il faut bien savoir que, comme on l'a dit tout à l'heure, il va falloir monter vers les 45, etc. euros, que si on ne le fait pas progressivement, il y a un certain nombre de secteurs qui vont complètement naufrager. Si vous faites passer, par exemple, de 17 à 30 le prix de la taxe carbone, vous avez 4 ou 5 industries françaises qui, aujourd'hui, naufragent totalement. Tout ce qui est cimenterie, engrais, produits chimiques, etc., naufrage totalement. D'où l'intérêt, à mon avis, de monter progressivement. C'est ce que nous faisons, d'ailleurs, dans les villes. Lorsque je regarde les villes, et j'en terminerai par là, on a dit que la répartition des secteurs émetteurs de gaz à émission, c'était, on a indiqué les données au niveau mondial. Mais au niveau européen, c'est un peu différent. Par exemple, les transports au niveau européen sont d'un poids plus important. Les déplacements, les transports sont plus importants. Et par exemple, les villes, c'est typique. Soit effectivement, on change de système urbanistique, construire autour des axes de transport en commun, et on diminue le besoin de venir en voiture individuelle. Soit on développe les transports en commun, ce qu'on essaye de faire, nous, dans la grande région métropolitaine, en essayant de construire un réseau de RER, en essayant de mettre en synergie nos différents réseaux de transports en commun. Et là, on progresse, et nous, on s'est donné comme objectif de respecter les 3x20 sur notre agglomération. De la même manière, nous progressons d'un point de vue habitat dans un référentiel que nous nous sommes donné, à la fois pour les bâtiments modernes, les bâtiments neufs, c'est le plus facile, mais le grand problème aujourd'hui, c'est le renouvellement de tous les bâtiments anciens qui sont énergétivores de manière incroyable. Et nous, pour donner un peu l'ampleur de ce qu'il faudrait faire, on a calculé par exemple que si le Grand Lyon, on voulait avoir un plan vraiment conséquent pour pouvoir remettre aux normes l'ensemble des bâtiments anciens, c'était environ 200 millions d'euros par an. Pour donner une petite échelle sur, par exemple, le logement social aujourd'hui, et nous sommes une des villes qui en faisons le plus, c'est 35 millions d'euros par an. Donc vous voyez les échelles d'efforts qui sont à réaliser. Voilà, donc je pense que chacun est partie prenante au niveau des États, au niveau des villes, mais que fondamentalement, dans les grandes villes du monde, il y a quelque chose qui est en train de se jouer aujourd'hui.
Merci beaucoup, Monsieur le maire. Déjà, d'une certaine manière, Hervé Letreux nous avait dit que le sujet est un sujet nouveau. Je crois que vous avez réinsisté en mettant justement cette vision dynamique sur la nécessité de cette vision prospective et dynamique, ce qu'on a eu sur le charbon, ce qui, incidemment, ça n'a pas été dit, mais signifie que le peak oil ne suffira pas à résoudre le problème du climat, parce que derrière, il y a du charbon. Et donc ça, c'est quelque chose qui est effectivement important. Vous avez aussi souligné à quel point, et Laurent Stefanini l'avait déjà dit, à savoir quand on a négocié, mettons, Rio, l'essentiel des émissions était dans les pays développés. Mais dès que les pays se développent, la question de la motorisation des transports devient quelque chose, un élément clé. Et là, on a les sujets nouveaux, donc cette mise en perspective est tout à fait importante. Donc, on est face à des sujets nouveaux qu'il faut aborder de manière prospective. Alors, il y a une institution qui s'occupe depuis longtemps d'économie des villes, une institution qui s'occupe plus récemment d'économie du climat, mais qu'on appelle, la vieille dame de la rue de Lille, ou je ne sais plus, de l'université, je ne sais pas en fait laquelle des deux. Ce n'est pas sûr que tout le monde, enfin dans les journaux, on ne retient que ça, que c'est la vieille dame. Donc, Jean-Pierre, est-ce que tu peux nous dire, au fond, pourquoi dans le plan stratégique de la Caisse des dépôts, le climat est devenu un élément structurant et avec plusieurs dimensions? Est-ce qu'en quelques minutes, tu peux nous dire ça?
Volontiers, bonjour à tous. Alors, peut-être certains se sont demandé quelle était la vieille dame à la tribune, au demeurant très masculine d'ailleurs. La Caisse des dépôts, c'est vrai, on l'appelle parfois de cette manière-là, puisqu'elle a été créée en 1816. Maintenant, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui pour nous, Caisse des dépôts, par rapport à cette question de l'enjeu climatique? Je dirais que n'étant pas un acteur soumis à contraintes comme peut l'être un grand producteur d'électricité, on se demande d'abord comment on peut être acteur sur ces questions et pas simplement observateur. Entre parenthèses, c'est vrai que c'est une question que, à titre individuel aussi, je pense chacun doit se poser, aussi bien ceux que nous sommes là à cette tribune que vous tous dans la salle, parce que si on parle d'instruments économiques et financiers, on est aussi face à un tel enjeu que tous les niveaux doivent être mobilisés pour agir, et il faut tous se demander comment on peut être acteur. Du côté de la Caisse des dépôts, il faut bien comprendre qu'on l'est d'abord parce que, en tant que grand investisseur à long terme, on ne peut pas regarder l'allocation de nos fonds propres, l'allocation de nos investissements, sans prendre en compte cette nouvelle donnée qui est, d'un côté, un prix croissant pour les émissions de gaz à effet de serre, et on fait le diagnostic que ce prix va être croissant malgré les difficultés des négociations internationales, et donc il faut en prendre en compte les conséquences sur les différents secteurs d'activité économique, ceux qui sont le plus directement concernés comme l'électricité, le ciment, d'autres, mais beaucoup d'autres également. C'est vrai aussi quand on est investisseur dans des infrastructures, dans du bâtiment et du logement, en accompagnement des collectivités territoriales, où on doit prendre en compte l'ensemble de ces dimensions. C'est quelque chose de nouveau, mais c'est quelque chose de très important, parce que par ailleurs, sur cette question-là, Il y a de très gros enjeux financiers au sens d'une allocation des ressources financières mondiales sur ce qui va dans le sens d'une économie sobre en carbone. Et en fait, si on regarde bien la situation mondiale, on ne manque pas vraiment de ressources financières aujourd'hui. C'est plutôt une question d'allocation de ces ressources, d'où l'importance que les signaux prix soient présents pour que ça permette une allocation de ces ressources par les acteurs économiques. Ensuite, l'autre caractéristique que tu évoquais, c'est que depuis quelques années, et en anticipant d'ailleurs sur la mise en œuvre des systèmes de plafonnement et d'échange de quotas, la Caisse des dépôts s'est positionnée, a investi pour être un des acteurs qui permet le fonctionnement de ces systèmes. Bon, évidemment, on peut les aborder de façon très globale au moment de la négociation internationale ou dans des réflexions sur les systèmes qu'il faut mettre en place. Mais ensuite, il faut bien comprendre que pour que ça fonctionne, on a besoin d'outils concrets, opérationnels. Un système d'échange avec à la base une allocation de quotas, du plafonnement, ça suppose des registres pour mesurer et comptabiliser l'ensemble des allocations de crédits, de quotas, leur circulation entre les acteurs. Un système d'échange, ça suppose des acteurs qui sont en fait des bourses pour que les échanges puissent fonctionner, des courtiers pour mettre en relation les acteurs qui ne peuvent pas être directement sur ce marché et la source des quotas ou des crédits dont ils ont besoin, etc. Donc, il faut des acteurs qui jouent ce rôle-là. C'est un des rôles de la Caisse des dépôts aujourd'hui, qui est d'une part dans ce métier des registres des quotas de gaz à effet de serre, mais aussi un des principaux actionnaires de Bluenext, la bourse européenne du carbone, etc. Donc nous travaillons dans ce domaine-là pour pouvoir contribuer et contribuer notamment à la sécurité de ces échanges, à la construction d'un système de confiance. Comme on est dans un secteur émergent, il faut pouvoir le construire avec des acteurs solides dans lesquels on est confiance. Et puis, on s'est aussi positionné comme un investisseur sur ces nouveaux actifs carbone, à la fois les quotas et les crédits qui sont générés par des projets dans les pays émergents et dans les pays en développement. Un des mécanismes d'ajustement créés par le système Kyoto. Et sur ce plan-là, c'est très important que des acteurs financiers puissent jouer un rôle d'investisseur, parce que c'est une façon d'apporter de la liquidité, de la profondeur au marché, d'anticiper sur les comportements des acteurs qui vont être soumis à la contrainte, d'apporter une dynamique à ces fonctionnements d'échange. Et nous le faisons en travaillant plutôt sur des logiques de fonds d'investissement innovants, des fonds sur des crédits de l'après-2012, ceux qui sont encore soumis aux interrogations de la négociation internationale, mais pour lesquels il faut déjà apporter des financements à des projets qui vont demain être réducteurs des émissions de gaz à effet de serre, ou à des crédits dans des zones qui aujourd'hui ne sont pas celles qui ont connu les plus forts développements dans ce domaine-là.
Merci beaucoup. Je crois qu'implicitement, Jean-Pierre nous a montré que la mise en œuvre des instruments est quelque chose où il faut regarder dans les détails. Ça avait déjà été souligné par Jean-Paul à propos de la régulation du marché du CO2. On a vu, je pense qu'on a déjà aussi une petite idée de quel peut être l'apport des économistes à ces travaux. Malgré tout, c'était d'ailleurs, ça s'appelle Acteur pour l'économie en Rhône-Alpes qui a fait un papier là-dessus. Qui se posait la question, est-ce que ça doit être rôle de théoricien, de prévisionniste, de conseiller du prince, comment s'exerce ce rôle? Je vous propose qu'on essaye de boucler sur les gens qu'il y a à la tribune en demandant au fond à François Salanier, plutôt du côté recherche, pourquoi il y a besoin de recherche sur ces sujets et en quoi consiste la recherche en économie sur ces sujets, puis à Jean-Charles Ourca de nous dire comment cette recherche et comment l'expertise participe à la négociation, à la décision. Donc je vous propose de leur passer maintenant la parole, pour qu'on ait une vision d'ensemble, au fond, des enjeux pour les uns et les autres.
Merci, Dominique. C'est un sujet assez riche, c'est un sujet qui pose aussi la question de nos rapports avec le politique. Donc, nous qui sommes plutôt du côté de la recherche, c'est-à-dire d'une activité universitaire, on est effectivement, et depuis une vingtaine d'années, extrêmement sollicités sur les problèmes environnementaux, donc en particulier dans le laboratoire que je dirige. Ça a structuré pas mal de programmes de recherche Et ça nous amène à jouer des rôles, comme aujourd'hui, en fait, où je suis ravi d'être invité pour transmettre quelques messages, qui sont parfois des rôles de... Vous savez, l'économiste, ce personnage un petit peu pessimiste, qui rappelle toujours l'existence de contraintes, de budgets limités, qu'il faut choisir entre tel programme ou tel autre, qu'il y a des recherches d'efficacité, etc. On va continuer sans doute dans le registre « Appelons un chat, construisons une réputation ». Comme Jean Tirol, j'aimerais rappeler que sur le front de la recherche, il y a des choses qui sont appuyées sur des principes, sur une somme de connaissances accumulées depuis déjà un siècle ou deux, sur des enquêtes empiriques multiples qui vont dans le même sens et qui créent un certain consensus. C'est difficile de parler de consensus entre les économistes, mais on va essayer. Un de ces principes, c'est la question du signal prix unique. Les exemples sont multiples. On ne peut pas dépenser 1 000 euros pour économiser une tonne de carbone à un endroit et refuser de dépenser 20 euros pour économiser une tonne de carbone quelque part ailleurs. Ça n'a aucun sens, ça crée des coûts dantesques. Il faut donc se rallier à cette position. Et je crois que le rôle des économistes est beaucoup dans la répétition pédagogique de principes comme celui-là. Un principe comme celui-là a une autre déclinaison, c'est que il faut qu'au moins Copenhague soit l'occasion d'avancer vers une prise de conscience qu'on a besoin d'un accord à un niveau mondial pour lutter contre le changement climatique. Il n'est pas question qu'une tonne de CO2 ne soit pas taxée dans un pays émergent et soit taxée en Europe. On a là aussi des coûts extraordinaires à traquer la moindre économie d'énergie en Europe à des coûts très élevés, alors que dans des pays même voisins, il n'y a absolument aucune réglementation et des sources de pollution qui pourraient être réduites à très faible coût. Là-dessus, pour renvoyer la balle à M. Stefanini, le plan justice climat est peut-être une bonne idée, aller chercher des réductions d'énergie dans les pays en voie de développement, des réductions d'émissions dans les pays en voie de développement est certainement une très bonne chose à faire. Maintenant, ça, c'est la partie relativement facile, le signal prix unique pour le carbone, c'est juste la partie d'efficacité finalement. On sait comment faire les choses efficacement. En fait, d'un point de vue purement théorique, le problème du réchauffement climatique est un problème tellement simple. On contribue à un stock de pollution et ce stock de pollution est en quelque sorte anonyme, peu importe une tonne de CO2 vienne de Chine ou de France, elle produira les mêmes effets au niveau global. C'est le cas le plus simple. Et cette question de l'efficacité, je crois, est assez bien traitée aujourd'hui par l'économie. Ce qui est plus difficile, c'est toutes les questions qui vont avec. Une fois qu'on se met à introduire des instruments comme des taxes ou des permis d'émission ou des normes, on crée des effets redistributifs. Donc on l'a vu au niveau interne à la France pour le débat sur la taxe carbone. Le débat n'a pas tellement porté sur son niveau. Il a porté sur les effets redistributifs induits qui sont essentiels. Il est vrai qu'on consomme plus ou moins d'énergie sous diverses formes, selon qu'on est riche, qu'on est pauvre, qu'on habite à la campagne ou ailleurs, et que créer des taxes, ça conduit à des effets redistributifs. Et il est parfaitement sain et démocratique qu'un gouvernement ou une opposition ne soit pas d'accord sur l'étendue de cette redistribution et ses moyens. Mais c'est une problématique là qui est beaucoup plus difficile et beaucoup plus riche et qu'on retrouve au niveau mondial pour Copenhague, en fait. Encore une fois, ce consensus mondial qu'on recherche sur l'idée d'avoir d'ici à, mettons, 2020, 2030, un accord mondial qui inclurait tous les pays, ne se fera pas sans redistribution. Jean Tirole pousse beaucoup la solution de redistribuer des permis d'émission. C'est un argument fondamental en faveur du marché de droits d'émission. Ça permet une redistribution qui n'est peut-être pas très transparente, mais dont les volumes peuvent être considérables. Et donc, pourrait amener à un accord à peu près convaincant, malheureusement dans des délais qui ne sont pas en mois, mais certainement en années ou même en décennies. Enfin, on m'a demandé quels sont les fronts en recherche. Là aussi, je vais résister à l'envie d'énumérer un certain nombre de thèmes qui sont qui vous ennuieraient, qui sont... qui ressemblerait étrangement au rapport d'évaluation de mon laboratoire. Les fronts importants, Ceux sur lesquels je passe très rapidement, le risque et l'incertitude qui ouvrent des possibilités de négociation intéressantes par la création de systèmes d'assurance entre pays qui permettraient de convaincre certains pays de se joindre à un accord. Les effets de long terme sont essentiels, vous le savez, les stocks s'accumulent à long terme, la recherche s'accumule à long terme. Il est très important d'avoir des modèles et des simulations qui travaillent sur vraiment du long terme, vraiment des 30 ans, 50 ans, 100 ans, et qui prennent en compte tous les effets d'arbitrage intertemporel qui sont induits par ça. La recherche, bien entendu, la recherche, c'est peut-être le plus bel espoir qu'on ait d'une rupture avec ces scénarios noirs que tout le monde souligne. Là aussi, si on parle de recherche à long terme, c'est aujourd'hui qu'on fait cette recherche. Donc c'est aujourd'hui qu'il faut décider de la forme de l'aide à la recherche et c'est aujourd'hui qu'il faut décider de la manière dont on traitera les nécessaires transferts de technologies aux pays émergents. Enfin, un dernier thème qui est extrêmement important dans les recherches environnementales, y compris en lien avec le changement climatique, mais dont on ne parle jamais, peut-être en raison de l'omniprésence des électriciens dans ces tribunes, c'est le sujet de l'eau. C'est curieux de parler d'eau quand on parle de changement climatique. En fait, on parle beaucoup de lutte contre le changement climatique par la réduction des émissions. Il va falloir aussi s'adapter au changement climatique. Ce changement a déjà commencé, semble-t-il, et il va s'intensifier. C'est pas tellement en termes de température que les gens s'inquiètent. Ça ne me dérange pas vraiment qu'à Lyon, il fasse un degré de plus dans 10 ans. Je ne sais pas quels sont les effets pour vous, mais en fait, ce serait peut-être bénéfique. La question, c'est celle de la disponibilité de l'eau. Et on résiste bien à une augmentation de température si on a suffisamment d'eau. L'agriculture peut produire de façon extrêmement compétitive, même dans des zones où il y a des climats très arides, du moment qu'on dispose d'eau, de nappes phréatiques. Donc on arrivera à nourrir les gens si on a de l'eau. Où est-ce que les questions vont se poser dans le futur? On a quelques candidats en tête, mais si je vous cite l'exemple du sud de l'Espagne, qui déjà a des problèmes très difficiles, ou du Maghreb, de l'ensemble du Maghreb, on conçoit maintenant, tout d'un coup, le problème est proche, qu'il est important et qu'il va falloir bouger sur ces actions, mettre au point non seulement des prévisions climatiques, des scénarios, qu'est-ce qui va se passer dans le futur, dans 10 ans, dans 20 ans, mais aussi mettre au point des systèmes, des schémas d'allocation de l'eau. Je crois que c'est une urgence aussi pour nous en France, qui soit efficace, qui prenne en compte les aspects redistributifs dont j'ai parlé, qui ne sont pas négligeables, tous les agriculteurs de France en sont convaincus, qui aboutissent à pouvoir gérer des situations, non pas de pénurie en France, on n'est pas inquiet sur la France ne va pas se transformer en désert, mais des difficultés locales certainement, et des difficultés européennes, et pour nos voisins, c'est absolument certain. Donc là-dessus, j'ai un front de recherche important, qui est souvent négligé dans les discussions sur le changement climatique, c'est donc cette question de l'allocation des ressources en eau et de sa gestion.
Ok, merci pour, je pense, ces ouvertures tout à fait révélatrices des sujets qui sont des sujets de recherche. Je me tourne maintenant vers Jean-Charles en lui demandant maintenant plutôt la dimension, le rôle de l'expert. Est-ce que l'expert économique, d'abord, est-ce qu'on arrive à se comprendre entre décideurs politiques et experts? Est-ce que l'expert, ça devient quelqu'un qui n'est plus ni un scientifique, ni un décideur, ou un décideur qui se cache en expert, ou un expert qui se cache en décideur? Peut ta vision et ton expérience de cette relation entre l'expertise économique dans les travaux, à la fois d'ailleurs dans les travaux du GIEC avec le groupe 3, et éventuellement dans les travaux et dans les travaux de négociation. Donc quelques mots de ta vision là-dessus, sachant qu'en plus, je sais qu'il faut qu'on raconte Liber et donc que tu partiras après. Donc je te passe la parole.
Oui, bah, je te remercie. Bon, d'abord, il y a une petite chose là-dessus, c'est que peu de gens savent qu'il y a un troisième groupe du GIEC, c'est-à-dire que ce groupe qui est un groupe d'économistes, a été fondé après un débat politique très fort avec nos collègues américains. Et nous sommes chargés, j'étais deux fois un des leaders de ces groupes, sur la capacité, selon les règles du GIEC, d'écrire de façon consensuelle, y compris sur nos dissensus. Donc il y a ce troisième groupe, mais en général, ça ne passe pas par là. Dans la presse, ça passe beaucoup moins que nos collègues du groupe 1. Ce n'est pas que je sois jaloux, mais ça veut dire simplement que tout le monde est un peu économiste, quoi. Donc ça veut dire que c'est très difficile de faire passer un certain nombre de messages. Mon expérience, bon, je ne vais peut-être pas en parler trop, bon, il faut simplement savoir que j'ai été un des négociateurs sur Kyoto, un des premiers à négocier avec les Américains sur le système de permis d'échange. Je dirais que ce que je tire de 20 ans d'expérience là-dedans, c'est quoi ? C'est qu'il y a toujours une tension entre ce que les économistes peuvent dire, qui n'est pas vraiment monolithique. Hein. Jean a raison, Jean Tirole a raison de dire qu'il y a un quasi-consensus sur le schéma qu'il a présenté. Il y a des économistes très connus comme Stiglitz, Krugman et d'autres qui pensent que ce système de quotas de Kyoto Plus ne marchera pas. Mais l'essentiel dont je fais partie pense qu'il faut aller dans cette direction-là. La question qu'il y a, c'est qu'on se confronte à la réalité. Prix unique, engagement sur des quotas, compensation. Le premier écrit sur le sujet qui dit exactement ça, c'est 1988, Negotiating Targets de Michael Crabbe. C'est Tirole, 20 ans plus tôt. Pourquoi ça n'a pas marché ? Et pourquoi ça pourrait ne pas marcher ? Alors, je crois que, parce que je crois ce schéma, je crois qu'il faut savoir pourquoi ça pourrait ne pas marcher. Sauf à dire que la réalité a tort. Première chose, encore une fois, je crois au signal prix. Hein. 50 dollars par tonne de CO2 en Inde, ça double le prix du ciment en Inde. Ça veut dire qu'il va se passer beaucoup de temps, le Rhône va couler longtemps sous les ponts ici, avant que l'Inde accepte un accord où elle serait amenée à renchérir en interne à 50 dollars, de 50 dollars son coût interne de l'énergie. La deuxième chose pour qu'elle ne le fera pas, il ne faut pas que ça se passe comme ça, c'est qu'il y a 1 milliard d'hommes qui vivent avec de l'énergie informelle. Nos simulations montrent que si on fait ça sans précaution, les gens simplement verront les prix de l'énergie formelle commerciale augmenter et accéléreront le coupage du bourras, l'utilisation de la bouse de vache, avec des conséquences locales et environnementales dramatiques. Ça ne veut pas dire que le prix unique n'est pas vrai, ça veut dire simplement qu'il faut se rendre compte des conditions à réunir pour qu'il soit vrai. Est-ce qu'on va compenser les Indiens pour ça ? Écoutez, vous êtes sûr qu'on va demander aux citoyens français de donner aux Indiens et aux Chinois des quotas d'émissions très généreux à des pays dont certains grands capitalistes rachètent la sidérurgie française ? Je ne crois pas. Et si on le faisait, il y a une expérience, c'est celle de Kyoto, qui est le hot air. C'est un mot bizarre, hein, ça. C'est que le fait, on risque de donner, si on est généreux, vous faites des quotas à la Chine à 9% de croissance ou 8% de croissance. Si vous vous trompez, la Chine ne fait pas 9%, elle fait 8%. Ça vous tue le prix de marché du carbone très rapidement, parce que vous avez 1% d'erreur sur la Chine tue le marché. Alors Jean Tirole dit il faut des prix planchers, il a bien raison. Il faut donc trouver un système où la Chine, quand elle rentre, le fait progressivement, probablement sur des systèmes flexibles d'allocation. Mais comme ça, style Kyoto, comme ça, c'est sûr que ça marche sur un bouquin, ça ne marche pas dans la réalité. Et ça, tout le monde le sait. Donc ça veut dire que l'économiste, il a ses principes et se dit comment je gère ça dans la réalité des tensions telles que je les vois. Dans le monde réel, il n'y a pas ici les gens des industries lourdes style ciment et compagnie, ça serait très drôle, vous verriez un peu leur réaction. Alors, le système dans lequel on doit aller, je pense qu'il y a deux choses. Premièrement, le système tel que Jean l'a décrit, à mon avis, reste le bon, à condition qu'on dise bien qu'il y ait une transition pour y aller. Pourquoi il est le bon ? C'est que normalement, et c'est dans son livre, et je trouve qu'il n'insiste pas assez oralement, c'est ça, j'ai négocié Kyoto comme ça. Alors, je me rappelle, c'était la première chose avec les Américains. Je n'ai jamais cru, jamais, il ne faut pas croire, à l'idée d'un prix unique du carbone appliqué dans des marchés généralisés à l'échelle mondiale. Comme disait Alan Mann, qui est un Américain, « That will be a good bargain for the lawyers. » Ça sera une très bonne affaire pour les hommes de loi. Vous ne pouvez pas imaginer ça. Par contre, vous pouvez imaginer, et c'est ce que dit Jean, il y a ce qu'il appelle la subsidiarité. Il faut qu'il y ait des accords entre États, il faut qu'il y ait un signal prix, il faut qu'il y ait des échanges à l'échelle mondiale. Mais on ne va pas jamais forcer les Indiens à appliquer le même prix en interne, chez eux, à leurs paysans, que nous, ici, à Paris. Bon. Donc ça, c'est important de bien l'avoir en tête. Il faut un signal prix, que ce signal prix soit mondial, et savoir que la subsidiarité va permettre de gérer les transitions qui sont compliquées. Parmi ces transitions, alors monsieur le maire de Lyon, il y a un truc très important, le prix du carbone ne fera pas tout. Parce que la mobilité, c'est pas seulement un problème de prix du carbone, c'est un problème du prix du mètre carré, du prix de l'appartement, de là où on vit, d'arbitrage, domicile-travail. Donc ça veut dire quelque part qu'il faut rajouter d'autres types de prix, le prix du mètre carré et le risque d'investissement. Ça, je donne comme j'ai très peu de temps, c'est deux points qui sont très très importants. Et les problèmes de l'urbanisme, de la façon dont on doit redensifier les villes, remixer les populations, c'est un point très très important qui n'est pas seulement un problème du prix du carbone, mais le prix du carbone est important, bien sûr, pour l'électricité, mais pas pour tout le monde. Dernier point, comment en sentir, je pense qu'il faudrait aller garder ce que, en gros, Jean a dit et qui rappelle quand même, ce qui est quand même un consensus à 90% parmi ceux qui connaissent ce dossier-là. Il y a à briser le cercle de la méfiance. Le cercle de la méfiance avec le Sud vient du fait que on leur dit, écoutez les gars, on a mangé deux tiers du gâteau et on va te faire plaisir sur le dernier tiers. Ce discours-là ne tient pas la route. Et le côté parfois un peu trop, excusez-moi, mais un peu trop vertueux des Européens, il est sympathique, mais en fait, il ne convainc pas trop. Jamais nous n'avons réussi à mettre sur la table quelque chose de crédible en matière de financement. On n'a pas accepté de taxer les échanges de permis. La charge de process, elle est sur le CDM. La taxe, elle est sur le CDM, c'est-à-dire les projets pour les pauvres. Jamais on a fait un gros avancé sur le transport aérien. Alors, ça veut dire quand même que c'est peut-être pas maintenant qu'on va le faire, parce qu'on va pas être très, très généreux. La question des financements, et il y a en page 23 de Jean Tirole, à mon avis, quelque chose sur lequel il faut que l'on construise. C'est quoi ? Puisqu'on ne va pas payer les Chinois et les Indiens, pourquoi ? C'est très simple. Ce sont les Chinois qui, nous, entre guillemets, surtout les Américains, ce sont les Chinois aujourd'hui qui financent les États-Unis. On va pas aller en sens inverse. L'enjeu aujourd'hui, c'est de mettre quelque chose sur la table qui redistribue l'orientation des investissements à l'échelle internationale pour baisser le risque d'investissement dans les industries, dans les infrastructures. Pendant 10-20 ans, ces pays-là vont faire leur système de transport et leurs systèmes électriques. Dans 20 ans, ça sera trop tard. On ne peut pas attendre qu'il y ait un marché qui fonctionne. Parce qu'il fonctionnera trop tard. Il faut qu'il fonctionne, mais pas dans les 5 ans qui viennent. Et c'est là que se fait le lien avec la crise du système financier international. Jean Tirole dit il faut que les États s'engagent à prendre le risque, qu'ils s'engagent à dire 100 $, il dit 100 $, c'est très bien, en 2030. Et puis si le prix du carbone n'est pas de 100, on prend le risque sur nous. Derrière ça, il y a quoi ? Il y a la réforme du système financier international. Nous avons soutenu le système financier par nos impôts, en réparant les bêtises qu'ils ont pu faire. On l'a fait en échange de rien. On est toujours dans le commerce des promesses. La question, c'est de lier la valeur sociale du carbone, le prix du carbone garanti à T+N, dans une réforme du système financier international où la Caisse des dépôts, l'Agence française de développement, etc., pourrait faire vraiment des incitations très fortes pour que dès aujourd'hui, dans les deux ans qui viennent, il y ait vraiment une transformation des flux financiers, en gros très simple, y compris que les Chinois, de temps en temps, réinvestissent chez eux sur certaines infrastructures. Si on arrive à mettre quelque chose d'un peu significatif dans ce domaine, alors on brise le cercle de la confiance, ça sera sérieux. Les Chinois ne croient pas qu'on va leur donner du fric, c'est pas vrai. Ils font semblant d'y croire, mais ils n'y croient pas. Par contre, si on offre des systèmes financiers fiables et si on dit top là, on va y aller et on va essayer de faire cette restructuration, à ce moment-là, on peut dire en même temps, les gars, il faut quand même que l'on discute aussi des engagements, y compris de type quantitatif, sur lesquels, peut-être dans une dizaine d'années, on aura le type de mécanisme d'échange entre États que Jean décrivait. Voilà, donc c'est un résumé à la fois de mon expérience au sens où c'est vraiment cette tension permanente qu'on a entre les principes de base et la façon dont on essaie de les faire passer, et un petit et quelques éclairages sur ce que je pense du futur après Copenhague.
Merci beaucoup. Alors, je crois qu'il faut remercier tous nos orateurs qui ont essayé d'être complémentaires et au fond progressivement de préciser un peu les morceaux du puzzle. Je crois que c'est intéressant. Peut-être avant de passer la parole à notre grand témoin qui est René Passé, je vais juste pour qu'il y ait un peu de dialogue dans notre table ronde. Est-ce qu'il y a quelques phrases de ceux qui sont déjà intervenus? Je pense que justement le grand témoin va pouvoir s'appuyer là-dessus. Au fond, alors soit parce qu'il y a quelque chose qui a été dit dans lequel on n'est pas d'accord, on est passé des scientifiques à la négociation. Il y a l'articulation quand même entre le politique et l'économique, c'est bien entendre les deux avis. Donc j'aurais tendance quand même, pour des interventions très brèves, pour ceux qui le veulent, est-ce qu'il y a autour de la table quelqu'un qui veut réintervenir? Et j'ai envie de proposer à monsieur le maire, avant, je sais qu'il doit nous quitter, est-ce que la vision de l'articulation entre le politique et l'expert tel qu'il s'esquisse et la vision de la négociation, est-ce qu'il a un commentaire à nous faire avant de partir? Et un peu les mêmes questions pour d'autres s'ils veulent intervenir.
Moi, je veux partir pour assister à un autre colloque, à un autre débat, qui est celui du rapport des sciences et de la société avec Michel Serres qui doit intervenir. Donc, c'est quelque chose qui, quand même, fait partie du débat que l'on a aujourd'hui. Non, simplement pour dire que je crois, il y a chez aujourd'hui, il y a quand même un changement assez important dans tout cela au niveau des dirigeants politiques. On voit bien par exemple qu'aux États-Unis, même si le président Obama a un certain nombre de difficultés déjà à faire passer son système de santé, et si le rapport Waxman pour le moment c'est à la seconde place dans ses préoccupations, à mon avis il veut faire une chose l'une après l'autre, on voit bien quand même qu'il y a un certain nombre de directions qui sont prises qui n'était pas porté à l'époque et qui a eu des inflexions assez importantes. Moi, je vais assez souvent en Chine, je regarde effectivement ce qui se passe, c'est les préoccupations qui sont rentrées dans l'agenda des politiques. Donc, les choses vont bouger dans les prochaines années et on va essayer les uns et les autres de les faire bouger. Il y a les maires des grandes villes qui se réunissent, les grandes villes du monde, hein, qui se réunissent à Copenhague en parallèle du sommet qui a lieu. C'est bien que la réflexion puisse cheminer également chez les maires du monde entier, au travers des grandes associations d'élus, parce que c'est en même temps le dialogue avec les citoyens qui est présent. Et à un moment donné, c'est pas simplement des décisions qui sont celles des chefs d'État, c'est quand même notre adhésion à nous tous à un projet global sur les 10 ou 15 prochaines années. Voilà, merci, je m'en beaucoup. Vais pour aller ailleurs.
Je propose peut-être de passer maintenant à notre grand témoin pour nous donner un peu, je crois qu'il a entendu beaucoup de choses, quelle ouverture il nous donne par rapport à tout ça. Merci beaucoup, monsieur le maire.
Bien, à vrai dire, et pour être tout à fait franc, il y a une question qui m'obsède depuis un certain nombre de jours. Qu'est-ce que ça peut être qu'un grand témoin? Alors, j'ai hésité entre la statue du commandeur, ça ne me plaît pas tellement, le poil à gratter, j'ai pensé que ça ne ferait pas sérieux. Alors je me suis dit que c'était peut-être quelque chose entre les deux. Prendre un peu de recul et puis essayer de dégager quelques thèmes sous-jacents qui sont apparus à travers ce qu'il a entendu, à la fois hier d'ailleurs et aujourd'hui, même s'ils ne sont pas tout à fait consensuels, je n'engage que moi dans cette affaire. Au fond, il me semble que tout au long de ce qui s'est dit, il y a trois défis que je voudrais vous proposer et qui concernent à la fois, si vous voulez, à la fois tout le développement durable, ce qui va se passer à Copenhague. Et ce sont ces défis-là que je voudrais mettre en évidence. Je crois qu'il y a d'abord le défi d'un changement de paradigme. Je crois qu'il y a le défi de l'ouverture sur le monde de la gouvernance mondiale. Et je crois qu'il y a, et c'est peut-être ce qui sera le plus difficile à faire accepter, le défi d'un, non pas d'un changement de rationalité, mais de l'apparition d'un nouveau type de rationalité. Alors un changement de paradigme, ou de grand système d'explication économique, si vous voulez. Les paradigmes sont mortels et nous, nous raisonnons comme s'ils ne l'étaient pas. Nous raisonnons en général dans l'éternité des systèmes de pensée, un peu comme si les débats entre économistes étaient souvent, je n'ai pas senti ça aujourd'hui, je vous le dis tout de suite, étaient des débats de gens qui, dont chacun détient fermement la vérité. Or, tous les paradigmes sont appelés à disparaître. L'économie néoclassique s'est cassé le nez devant la crise de 1929. Le paradigme keynésien a montré ses limites devant la stagflation de la seconde moitié des années 70. Et je crois qu'aujourd'hui, le paradigme néolibéral installé dans les années 80 marque ses limites et je pense que tout simplement il bute contre ses propres contradictions. Il bute contre l'une des bulles qu'il a lui-même créée de par sa logique depuis qu'il est en place. Mais comme le dit Kuhn, qui est précisément l'homme qui a non pas inventé la notion de paradigme, mais qui l'a actualisé, un paradigme, même lorsqu'il a échoué, continue à survivre aussi longtemps qu'un autre paradigme n'est pas prêt à prendre sa place. Alors je crois que ça explique déjà un certain nombre de débats. Par exemple, je ne vais pas y revenir, le débat crise ou pas crise, sortie de crise ou pas sortie de crise. Il faut caractériser la crise. Pour moi, si la crise est la crise d'un système de régulation, on pourrait très bien y avoir d'apparentes sorties de crise conjoncturelle dans une crise d'un mode de régulation qui, elle, est appelée à continuer longtemps. Alors, la sortie de, en ce qui nous concerne plus directement pour nos thèmes, moi, je crois que la seule sortie que doit être le nouveau paradigme, je crois que ça ne peut être qu'une bioéconomie. Qu'est-ce que j'entends par bioéconomie ? Une économie véritablement ouverte aux questions de l'environnement et de la biosphère. Le fait nouveau fondamental, qui je crois remet en cause l'une des bases, l'une des conventions essentielles de la science économique, c'est que nous atteignons et nous dépassons d'ailleurs les limites de la capacité de charge de la biosphère. Et ça, c'est fondamentalement nouveau. La nature n'est plus ce bien libre que l'on nous avait dit, qui permettait de faire de l'optimisation économique sans se préoccuper de savoir des effets qui, de toute façon, se réparaient d'eux-mêmes autour de nous. Alors que la nature doit être, que l'économie doit être intégrée dans les systèmes de régulation naturelle, cela, à mon sens, éclaire la notion de norme. Il faut ne pas se tromper de terrain de la norme. Nous avons nos normes d'optimisation économique, mais la question du développement durable se pose lorsque, précisément, nos politiques d'optimisation économique remettent en cause les normes de régulation du milieu naturel. Et c'est ça, je crois, le développement durable, subordonner l'optimisation au respect des grands systèmes de régulation naturelle. Je ne vais pas plus loin simplement pour une question de temps. Je pourrais évoquer simplement un argument, c'est qu'un système ne peut prétendre en contrôler un autre, en orienter un autre. Or, que veut faire une orthodoxie économique que s'il se situe à un même degré, au moins au même degré de complexité ou de diversité. Je veux dire par là, c'est la fameuse loi de diversité de Ashby, je veux dire par là que si l'on n'intègre pas ces phénomènes, on ne sera pas en mesure de régler les problèmes qui se posent. Ce n'est pas en laissant hors de soi l'essentiel que l'on peut régler les problèmes. Le deuxième défi, je crois, c'est celui de l'ouverture sur le monde. Alors on me dit d'accélérer un petit peu, je vais le faire. C'est celui de l'ouverture sur le monde et celui de la gouvernance mondiale. Et de toute façon, de tous les côtés, nous avons vu poser le problème au niveau du monde. D'une part, l'informationnel, c'est ce qui fait du monde entier une unité accessible en temps réel, en tout point du globe. Et par ailleurs, les problèmes qui se posent sont de nature globale. Les problèmes qui se posent sont des problèmes de dimension mondiale, de dimension globale. Bon, il est inutile de les citer, simplement ce que nous pouvons dire, c'est qu'ils sont abordés actuellement et à Copenhague, et c'est en cela que j'ai quelques inquiétudes, à travers des intérêts, des confrontations d'intérêts nationaux qui ne désarment pas les uns en face des autres. Cela pose le problème de la gouvernance mondiale. Et je pense qu'il ne peut y avoir gouvernance mondiale que si des instruments de régulation et des institutions de régulation sont mis au point au niveau auquel se situent les problèmes. Je veux dire par là qu'il s'agit, je ne parlerai pas d'abandon de souveraineté, ça choquerait, mais je vais employer un autre terme qui veut dire autre chose, qui veut dire la même chose, mise en commun de souveraineté pour régler ensemble les problèmes. Et par là, j'insiste sur le fait qu'il ne s'agit pas de superposer des strates de souveraineté qui éloignent de plus en plus les instances de régulation mondiale des citoyens. Il s'agit de régler les phénomènes au niveau où ils se posent, de s'attaquer aux différentes fonctions par lesquelles la nature et le monde se régulent. Et enfin, le troisième défi, c'est peut-être celui qui sera le plus difficile à accepter, pour les économistes du moins. L'économie se définit comme une lutte contre la rareté. C'est vrai. L'art de faire une valise, dont nous parlait Wilhelm Röpke, l'économie, c'est l'art de faire une valise. Dans un volume déterminé, effectuer les choix des objets les plus convenables en fonction d'un déplacement que nous allons faire, de manière à en tirer le maximum de satisfaction. Mais aujourd'hui, malheureusement, la fabrication de la valise contient tellement d'objets qu'elle met à mal le milieu sur lequel elle les prélève et d'ailleurs sur lequel elle rejette les objets usagés. Alors voilà apparaître un nouveau problème qui est celui de la gestion du trop et de la répartition des sacrifices en fonction de ce trop. Or, s'il y a des problèmes, s'il y a des théories de l'optimisation en matière économique, pour ce qui est de la production, il n'y a pas de théorie de l'optimisation en matière de répartition. Pareto le dit lui-même, en matière de répartition, je n'ai aucun optimum à vous proposer. C'est une question de sentiment. Je veux dire par là que c'est une question de valeur. On ne peut plus régler le problème sans passer par le champ des valeurs. Et je crois que cela déplace complètement le système de la rationalité. Lorsque les productions sont rares, que les niveaux de vie sont bas, que les milieux naturels ne sont pas menacés par la production, eh bien, le plus est aussi le mieux. Plus on produit, mieux c'est. Produire du quantitatif, c'est faire du bien-être. Et tous les économistes, d'ailleurs, ou presque tous, du 18e et 19e siècle, nous le disent très clairement, Jean-Baptiste Say le premier. Le plus est en même temps le mieux. Et nous avons construit toute notre rationalité sur cette base-là. Ça veut dire que c'est la performance de l'appareil productif qui détermine la satisfaction des agents. Aujourd'hui, c'est moins évident. Plus de blé hier, oui. Plus d'automobiles aujourd'hui, c'est moins évident. Et en mettant en cause l'existence du milieu naturel. Alors ça veut dire qu'apparaît la question du pourquoi. Et la question du pourquoi, Eh bien, c'est la question des valeurs. À quelle fin ? Produire, oui, mais pourquoi faire ? Et nous voyons la question des finalités absolument redoutables, mais qui va peut-être nous proposer un début de réponse pour le thème central de cette matinée, la relation avec le politique. Nous voyons apparaître la question des valeurs et des finalités. Je disais qu'elle est redoutable parce qu'elle est indémontrable dans aucune science. Toute science, quelle qu'elle soit, regarde l'univers, regarde le monde d'un coup d'œil, d'un côté, d'une manière purement partielle et spécifique, alors que la question des valeurs, c'est une question globale qui concerne l'ensemble. Alors nous trouvons reportés au niveau du consensus social, c'est-à-dire au niveau du politique. Et je crois que c'est dans cela que nous redécouvrons une vérité qui me paraît essentielle. À partir du moment où la question du consensus social devient la question essentielle, eh bien, incontestablement, c'est la question politique qui devient la conception essentielle et l'économie retrouve sa vraie vocation d'être au service des valeurs et du consensus social.
Merci beaucoup. Alors, on me fait signe que, certes, on a démarré 10 minutes en retard, mais il faut qu'on termine à l'heure. Il nous reste 5 minutes. Je vous propose, malgré tout, qu'on ait quelques questions de la salle, mais c'est moi qui ai le micro. Donc, enfin, s'il y a des questions, est-ce qu'il y a des questions ? Parce que René Passet s'est posé la question, qu'est-ce que devait faire le grand témoin ? On peut aussi conclure qu'il concluait. Et je pense qu'il l'a très, très bien fait. Donc, sauf questions rentrées, on admet, je crois que c'était très riche et que finalement, ça nous tient lieu de conclusion. Et je vous remercie tous. Je crois que c'était un exercice très contraignant et auquel chacun s'est livré de manière très utile. Voilà. Donc merci à tous et peut-être désolé de ne pas avoir été plus interactif, mais je pense que c'était, en tous les cas, c'était très intéressant pour nous. Merci.